Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 15 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoulia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi normalise les relations de son pays avec la Belgique et le Rwanda voisin.
Au Soudan, accord sur une période de transition politique de 3 ans entre les militaires et les représentants de la contestation.
Algérie, Reporters sans frontières dénonce des sanctions injustifiées contre des journalistes.
Le président américain Donald Trump dément que les pourparlers commerciaux entre les États-Unis et la Chine aient échoué. Une petite querelle, selon lui.
Et Donald Trump a également qualifié de fake news les informations selon lesquelles il envisagerait d'envoyer 120 000 soldats au Moyen-Orient pour contrer l'Iran.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, le président Félix Tshisekedi normalise les relations entre son pays et la Belgique après avoir confirmé le réchauffement de celles avec l'un de ses voisins, le Rwanda. Le point avec Eddy Issongo.
Une haute délégation de la Belgique avec à sa tête le premier ministre Didier Reynders a rencontré les chefs de l'État congolais mardi à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Les deux pays normalisent leurs relations en froid durant les dernières années du régime de Joseph Kabila. Les chefs du gouvernement belge préfèrent les termes de redynamisation et du réchauffement des relations selon sa déclaration. Il était accompagné entre autres de René Nischkens, envoyé spécial belge pour la région des Grands Lacs et du général-major Philippe Bouquet, adjoint du chef de l'état-major de la Défense. Le régime de Kabila n'avait pas digéré les efforts de la Belgique qui faisait pression en vue d'empêcher les troisième mandats du président congolais qui ne s'est finalement pas présenté à la dernière présidentielle. Entre-temps, la coopération a été suspendue. La maison Schengen à Kinshasa, sorte de consulat européen géré par la Belgique, a été fermée et les activités de l'agence belge de développement, Enabel, gelées. Par ailleurs, la fréquence des vols de Brussels Airlines entre les deux pays a été réduite. Aujourd'hui, tout revient à la normale. Le nouveau président a aussi normalisé les relations avec le Rwanda. Vendredi, il a reçu à Kinshasa les chefs d'état-major des forces de défense du Rwanda.
Et nous y reviendrons en seconde partie de cette édition.
Au Soudan, le conseil militaire au pouvoir, depuis l'éviction le 11 avril du président Omar el-Bashir et des représentants des manifestants, ont annoncé tôt ce mercredi un accord sur une période de transition politique de 3 ans devant préparer un transfert du pouvoir aux civils. Et ce, à l'issue de discussions marathon, Jean-Roger Bion.
Jusqu'ici, les manifestants voulaient 4 ans alors que l'armée voulait écourter la période à 2 ans. Selon le général Yasser Atta, membre du conseil militaire, les 6 premiers mois de la transition seraient consacrés à conclure des accords de paix avec les mouvements rebelles dans l'ouest et le sud du Soudan. Il a également fait état d'un accord sur les prérogatives et la composition de la future assemblée législative. Elle comprendra, a-t-il précisé, 300 membres désignés et sera constituée à hauteur de 67% par des représentants des manifestants réunis au sein de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC. Le reste de l'assemblée sera occupé par les forces politiques non affiliées à l'ALC.
Plus au sud, le président Salva Kiir exhorte les législateurs et autres responsables sud-soudanais à soutenir la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018. Il a assuré qu'il n'épargnerait aucun effort dans la consolidation de la paix et de la stabilité. Michel Joseph.
Le Soudan du Sud n'avancera pas tant que le gouvernement et l'opposition n'accorderont pas la priorité à l'application de l'accord de paix, a déclaré le chef de l'État sud-soudanais à la réouverture de l'Assemblée nationale de transition à Juba. Salva Kiir a appelé toutes les parties sud-soudanaises à œuvrer ensemble pour rétablir la paix et la libre circulation des personnes. Le pays est à la croisée des chemins, devant choisir entre embrasser et consolider la paix ou renouer avec la guerre, a-t-il déclaré, en affirmant complètement rejeter la guerre. Le président Kiir s'est dit prêt à travailler avec tous les groupes de l'opposition, ce qui lui a valu une chaleureuse ovation des législateurs et diplomates présents à la cérémonie. Il a assuré avoir pardonné à l'opposant Riek Machar, qu'il a appelé à rentrer à Juba pour appliquer l'accord de paix. Un nouveau gouvernement doit être formé en novembre suite à la décision des parties sud-soudanaises de prolonger la période de transition de 6 mois.
En Algérie, l'ex-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'armée, Khaled Nezar, a quitté libre hier un tribunal militaire qu'il a entendu comme témoin dans l'enquête pour complot contre l'État visant Saïd Bouteflika, frère du président déchu Abdelaziz Bouteflika, a rapporté la télévision nationale. Selon elle, le général à la retraite a témoigné sur ses contacts avec Saïd Bouteflika et la tentative de celui-ci d'imposer l'état d'exception et sur une tentative de mettre fin aux fonctions du chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah. Ce dernier est de facto l'homme fort du pays depuis qu'il a contraint le 2 avril à la démission le président Bouteflika.
Et toujours en Algérie, plusieurs salariés de la télévision nationale ont récemment été sanctionnés pour s'être prononcés contre les pressions subies de la part des autorités, révèle Reporters sans frontières, qui a dénoncé des sanctions injustifiées. Les précisions d'Irénée Herman Umbo.
Journaliste à Canal Algérie, la chaîne francophone de la télévision publique algérienne, Abdelmajid Benkassi a reçu un avertissement pour avoir pris part sans l'autorisation de sa hiérarchie à un débat sur une chaîne privée consacrée aux médias publics. La journaliste Melina Yassef a de son côté confirmé l'arrêt sur une autre chaîne de la télévision publique de son émission sur la voie du changement. Le 9 mai, M. Benkassi avait déjà dénoncé la mise à l'écart par la direction d'Abderrazak Sia de son poste de présentateur d'un des journaux télévisés de la 3, une chaîne arabophone publique. Dans un tweet, Nadia Madassi, qui a démissionné début mars de son poste de présentatrice du JT Soir de Canal Algérie, a attiré l'attention sur ses sanctions, ainsi que celles contre le journaliste Ali Adadou et la technicienne Imen Slimane, mutées pour leur soutien au mouvement de contestation. RSF dénonce ces mesures abusives et appelle à leur levée immédiate. Il s'agit de sanctions disproportionnée et injustifiée contre des journalistes qui n'ont fait qu'appeler à une presse libre et indépendante, indique Swayeb Kayati, directeur du bureau Afrique Nord de l'ONG, dans un communiqué. L'organisation dénonce également la déprogrammation de l'émission Questions d'actu sur Canal Algérie, censurée parce que trop critique sur la situation politique du pays.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump dément que les pourparlers commerciaux avec la Chine aient échoué, qualifiant de petite querelle ce que beaucoup appellent une guerre commerciale entre les deux principales puissances économiques du monde. Il a assuré que le dialogue se poursuivra entre Washington et Pékin et il a répété que les deux parties étaient très près d'un accord et que la Chine a changé d'avis. En réaction, on dit des officiels de son administration, le président Trump a décidé de durcir ce qu'ils n'ont pas hésité à qualifier franchement de guerre commerciale.
Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue américain Mike Pompeo se sont livrés mardi à une passe d'armes sur les accusations d'ingérence de Moscou dans les élections aux États-Unis, et ce, en dépit de leur volonté affichée de renouer le dialogue. Le point avec John Lyndon.
La visite du secrétaire d'État américain à Sotchi sur la mer Noire, avec au programme une rencontre avec le président Vladimir Poutine, constitue la rencontre au plus haut niveau entre responsables des deux puissances et rivales depuis le sommet d'Helsinki de juillet. Après 3 heures d'entretien, les deux chefs de diplomatie ont multiplié face à la presse les appels à aller de l'avant, mais le sujet de l'interférence dont Washington accuse Moscou est revenu sur la table. Si la Russie s'ingérait dans la présidentielle américaine de 2020, cela aggraverait encore notre relation, a averti M. Pompeo, demandant à Moscou de démontrer que ce type d'activité appartient au passé. Sergueï Lavrov a qualifié pour sa part de pure fiction les accusations de collusion entre Donald Trump et la Russie. Il a de nouveau démenti toute ingérence. Selon lui, les faits montrent que tous ceux qui montent ce sujet en épingle n'ont pas de preuves. Le chef de la diplomatie russe a qualifié ses pourparlers avec Mike Pompeo de franc et utile. Nous nous sommes mis d'accord sur l'importance de rétablir les canaux de communication. Ces derniers temps, ils étaient gelés. Les points de discorde restent nombreux et les deux responsables se sont également opposés sur le Venezuela, M. Pompeo demandant à la Russie de cesser de soutenir le président Nicolas Maduro.
Le président Trump a démenti les informations du New York Times selon lesquelles il envisagerait d'envoyer 120 000 soldats au Moyen-Orient pour contrer l'Iran. Il a qualifié ces informations de fake news. « Si nous devons le faire, nous enverrons beaucoup plus d'hommes que ça », a-t-il ajouté. Le Pentagone a envoyé dans la région en porte-avions des bombardiers B-52 et une batterie de missiles Patriot, suite à des informations sur d'éventuelles attaques contre des intérêts des États-Unis et ceux de leurs alliés.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé mardi son soutien à la politique du président Trump contre, je cite, « l'agressivité iranienne ». Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a assuré mardi que les États-Unis ne voulaient pas d'une guerre avec l'Iran et à Téhéran, l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, a indiqué qu'il n'y aurait pas de guerre avec les États-Unis. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nani Talani.
Au Mali, les cheminots ont repris hier le travail après presque 5 mois d'arrêt avec un mouvement de grève de la faim pour le paiement de nombreux mois d'arriérés de salaire qu'ils vont finalement recevoir. Près de 500 cheminots sont concernés. L'État malien s'est engagé à relancer les activités et à acheter de nouvelles locomotives. La voie ferrée Bamako-Dakar revêt une importance vitale pour les échanges de ce pays enclavé. Le Gabon a récupéré 200 conteneurs sur les 353 disparus contenant le Kévasingo, un bois rare protégé. Le procureur général Olivier Nzaou a déclaré que 71 des conteneurs manquants ont été retrouvés dans les locaux du port de la société Sotrasgab, immatriculée au Cameroun, et 129 sur la propriété de la société Owendo Container Terminal. 153 conteneurs sont toujours portés disparus. Déjà, 2 Chinois sont détenus dans le cadre de cette affaire. Les conteneurs de bois de Kévasingo, abattus illégalement et coûtant près de 250 millions de dollars, avaient été saisis au port d'Owendo de Libreville fin février, début mars. Terminons avec Microsoft qui investira 100 millions de dollars pour ouvrir un centre de développement technologique en Afrique avec des sites au Kenya et au Nigeria dans les 5 prochaines années. La société engagera plus de 100 ingénieurs locaux pour travailler dans les 2 pays afin de personnaliser ses applications pour le marché africain et d'en développer de nouvelles pour le continent et au-delà.
Les sports à présent avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour. Soupçon sur un match de foot algérien, 7 parieurs arrêtés en France.
Oui, des arrestations effectuées dans l'est de la France dans une enquête sur des soupçons de match arrangé en Algérie impliquant l'un des plus grands clubs du pays, l'AS Sétif. La rencontre qui comptait pour le championnat d'Algérie le 12 mai 2018 s'était soldée par une victoire 3-2 du DRB Taïnanet contre l'AS Sétif. Sur les 5 buts, 3 avaient été inscrits sur pénalty. D'après les sources proches du dossier, une enquête avait été ouverte par le parquet de Nancy à cause de paris en ligne suspects enregistrés dans la région, notamment autour de Metz. L'AS Sétif est l'un des clubs les plus titrés d'Algérie avec 8 titres de champion national et 2 ligues des champions d'Afrique.
Football, toujours, John Obi Mikel, candidat à un retour avec le Nigeria pour la CAN 2019.
Oui, le milieu de terrain est candidat à un retour dans l'équipe du Nigeria pour la Coupe d'Afrique des Nations du 21 juin au 19 juillet au Caire, annoncé un membre de l'encadrement des Super Eagles. L'ancien joueur de Chelsea est revenu cette année en Angleterre, à Middlesbrough, après 2 ans en Chine. Obi Mikel, âgé de 32 ans, avec 85 sélections, n'a plus porté le maillot des Super Eagles depuis le Mondial 2018, l'été dernier, en Russie.
Antoine Griezmann quitte l'Atlético Madrid.
Oui, il y évoluait depuis 5 saisons. Cette annonce du joueur ouvre la porte à un éventuel transfert vers le FC Barcelone, club qu'il avait refusé l'été dernier. Le champion du monde français n'a pas encore précisé vers quel club il se dirigeait. Lui qui avait déjà été tout près de quitter l'Atlético pour le FC Barcelone l'été dernier, avant de décider de rester, annonçant sa décision dans une vidéo qui avait fait polémique juste avant le Mondial en Russie. Et pour terminer, Idrissa, quelques résultats de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Le tenant du titre, Golden State, a idéalement débuté sa finale de conférence Ouest avec une démonstration de force face à Portland, dominé 116 à 94. Malgré l'absence de leur meilleur marqueur, Kevin Durant, toujours blessé à un mollet, Stephen Curry et ses coéquipiers n'ont jamais été inquiétés par les Trail Blazers. Le meneur de Golden State a marqué 36 points, dont 9 paniers à 3 points, en 35 minutes de jeu. Son coéquipier Klay Thompson, qui a retrouvé son efficacité offensive depuis une semaine, a ajouté 26 points.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Comme nous le disions en première partie, reprise de la coopération diplomatique et militaire entre la RDC et la Belgique. Le nouveau président congolais a reçu hier à Kinshasa une délégation de haut rang de l'ancienne puissance coloniale. Félix Tshisekedi a aussi confirmé le réchauffement des relations de son pays avec un autre partenaire important, le Rwanda. Eddie Isango a joint un journaliste de la République démocratique du Congo basé à Seattle, dans l'État de Washington, Antoine Roger Bolamba.
La République démocratique du Congo est actuellement en train de vivre une situation, si elle ne s'ouvre pas auprès des États qui peuvent l'aider à sortir de la situation de crise générale qu'elle est en train de traverser, ça sera difficile pour ce pays de pouvoir un peu éclore et réaliser ce qu'il est censé être au cœur de l'Afrique comme un pays riche qui veut booster le développement de toute l'Afrique. Donc la reprise des relations bilatérales entre la Belgique et la République démocratique du Congo est saluée par nous et saluée par tout le monde qui veut que le Congo puisse ne pas vivre dans une situation d'isolement.
De personnalités de l'ancien régime, je vais faire allusion au régime du président Joseph Kabila, sont sous sanction de la Belgique et même de l'Union européenne. Maintenant que les relations se normalisent, quelles doivent devenir ces sanctions?
Je ne pense pas que les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique doivent se résumer dans les sanctions des individus qui se sont comportés d'une certaine manière. C'est que les autorités de l'ancien régime ont posé comme acte, il faudrait que la justice puisse faire son travail. Vous savez, la Belgique a pris ce genre de décisions pas pour rien. Et je ne crois pas qu'ils doivent dire que non, on a fait une blague, tout simplement, on supprime ça.
La fermeture de la maison Schengen, la réduction des fréquences de vol de SN Bruxelles était en quelque sorte des mesures de rétorsion côté Kinshasa.
Oui. Je me souviens de ces mesures-là, mais je pense que la reprise de la relation bilatérale entre la Belgique et le Congo pourra exactement résoudre ces questions-là qui sont beaucoup plus fondamentales que la question tout simplement de lever les sanctions des dignitaires de l'ancien régime.
Les régimes ayant changé en RDC, ces relations qui reprennent doivent-elles continuer dans les mêmes élans ou doivent-elles changer de cap?
La politique de la main tendue, ce n'est pas toujours bien à continuer à considérer. Comme vous savez, beaucoup de gens disent et le soutiennent, c'est la main qui donne, qui commande le menu.
Dans la délégation, il y avait aussi les chefs d'état-major adjoints de la défense belge.
On a besoin de former des militaires, d'équiper des militaires, de mettre des militaires dans des conditions compétitives de combat pour essayer de neutraliser. Pourquoi ne pas élaguer la situation des milices, la situation de guerre, la situation de crise dans la partie notamment est de la République démocratique du Congo.
Et ceci s'est fait juste quelques jours après la normalisation des relations militaires avec le Rwanda.
La coopération militaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pourra encore nous aider à se dire des vérités en face et à voir comment lever une équivoque qui pourrait amener la paix en République démocratique du Congo.
C'était Antoine Roger Bolamba, journaliste congolais basé à Seattle dans l'État de Washington.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Troisième conférence épiscopale régionale d'Afrique de l'Ouest, cette rencontre qui accueille 150 cardinaux, archevêques et évêques de la sous-région, se tient dans un contexte d'attaque terroriste visant la communauté chrétienne. Compte rendu d'Issa Napon à Ouagadougou.
Environ 150 cardinaux, archevêques, évêques, secrétaires généraux d'une dizaine de conférences épiscopales de la sous-région ouest-africaine participent à cette troisième assemblée de Ouagadougou. Le clergé, qui a la ferme volonté de redonner un second souffle à l'action de l'Église dans la sous-région, veut, à travers cette thématique du développement humain intégral, relever un certain nombre de défis à travers l'Église famille de Dieu. Le cardinal Philippe Draogo, archevêque métropolitain de la ville de Ouagadougou.
Tous les évêques de l'Afrique de l'Ouest veulent contribuer à relever des défis majeurs, prioritaires et urgents des populations confiées à leur sollicitude pastorale. La balkanisation de l'Afrique suite au congrès de 1885, la pauvreté, les conflits et guerres fratricides, les maladies, l'analphabétisme, le chômage, le terrorisme, la malgouvernance, la corruption et j'en passe. Comment l'Église famille de Dieu en Afrique occidentale pourrait-elle contribuer à éradiquer ces maux qui minent nos sociétés, promouvoir un développement intégral qui prenne en compte la personne humaine et sa dignité.
Et comme il fallait s'y attendre, l'actualité liée aux attaques terroristes contre les symboles religieux et les membres des communautés religieuses s'est invitée dans la rencontre. Monseigneur Paul Ouedraogo est le président de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger.
Nous sommes là pour vivre Église, penser Église et voir ensemble comment redonner du souffle à notre action missionnaire. Vous conviendrez avec moi que l'actualité de ces derniers jours ne fait pas du Burkina Faso une destination de premier choix. Et ce, d'autant plus que dimanche dernier, une attaque terroriste a visé expressément une communauté catholique en pleine célébration eucharistique, faisant 6 martyrs. Et hier encore, dans le diocèse de Waïguya, une attaque avec 4 victimes et la destruction de la statue de la Vierge Marie. Au Niger, à Dolbel, une attaque avec le curé blessé ou à la main et à la jambe où il a reçu des balles. Tout ceci dit que notre région ouest-africaine est fortement troublée.
Un défi sécuritaire sur lequel a insisté le porte-parole du président de la République, le ministre Siméon Sawadogo, en charge de la cohésion sociale.
Ces attaques terroristes inqualifiables, où tous les nombreux victimes qu'elles font ont pour colorer des risques de conflits intercommunautaires, de repli identitaire, d'activation de relents religieux, en somme, de fragilisation du tissu social. Le gouvernement du Burkina Faso examinera avec le plus grand intérêt les conclusions de cette rencontre et surtout vos propositions et contributions à la promotion de la paix et du développement humain durable dans les pays de l'espace ouest-africain.
Plusieurs personnalités se sont succédées pour exprimer l'importance de la mise en place du système et environnement qui redonne sa dignité à l'homme et un avenir à la jeunesse africaine.
Pour les siècles des siècles. Amen.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Raissa Girondin avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, la situation sécuritaire de plus en plus inquiétante au Burkina Faso. Dans le nord du pays, des églises et des responsables religieux sont désormais la cible d'attaques attribuées à des groupes djihadistes. Que sait-on de leur identité? Que veulent-ils et pourquoi ce changement de mode de fonctionnement? Quelle riposte contre le terrorisme dans ce pays? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Amnesty International s'inquiète de la répression qui a suivi les élections législatives du 28 avril au Bénin. Une répression qui, écrit l'organisation dans un communiqué, a atteint des proportions inquiétantes avec 4 morts lors des manifestations post-électorales. Écoutez au micro de Bagassi Koura, Kine Fatim Diop, chargé de programme Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
Amnesty a documenté au moins 4 morts par balle depuis le jour des élections législatives qui se sont tenues le 28 avril au Bénin sans l'opposition. Parmi ces personnes décédées, on compte une mère de famille qui est décédée le 2 mai suite à des blessures par balle, ainsi qu'un jeune garçon âgé de 19 ans qui était un apprenti soudeur qui est décédé dans la ville de Kandy le 2 mai également. Amnesty a pu documenter également le cas de plusieurs blessés. Et pour nous, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que les familles qui ont perdu leurs proches face à des obstacles administratifs pour récupérer les corps de leurs victimes.
À l'époque, l'opposition avait parlé de tirs à balles réelles. Est-ce que c'est aussi votre constat?
Oui, Alors, les cas que Amnesty International a pu documenter, c'est des personnes qui sont décédées suite à des tirs par balles réelles. Pour nous, c'est vraiment inquiétant. L'usage excessif de la force est vraiment contraire à l'exercice du droit de manifester, tel que reconnu par à la fois la constitution béninoise, mais également le droit international.
Est-ce que vous savez s'il y a des enquêtes en cours?
Alors, on n'a pas encore la réponse officielle des autorités. On sait que le ministre de l'Intérieur avait réagi au niveau d'une radio internationale pour dire qu'il y a eu usage d'armes à feu et que des enquêtes seront menées. Mais pour l'instant, on n'a pas eu d'acte concret de la part des autorités béninoises dans ce sens-là. Ce que l'on sait, c'est qu'à ce stade-là, des blessés sont inquiétés, des blessés sont harcelés, mais aussi des activistes politiques sont arrêtés. C'est le cas de Habib Ahandassi, un étudiant web activiste qui a été arrêté jeudi dernier et à qui on reproche d'avoir participé à une manifestation non armée, alors que lui-même déclare n'avoir pas participé à cette manifestation du 1er et 2 mai.
Alors, on imagine que ça vous surprend, hein, parce que le Bénin a toujours été présenté comme un exemple démocratique dans la sous-région.
Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'attentes par rapport au Bénin, qui a été montré longtemps comme un exemple en termes de démocratie. Mais ce que nous voyons récemment, c'est vraiment un recul en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de réunion pacifique. Je pense qu'il est temps que les autorités béninoises mettent fin à, disons, tout ce processus de nier les droits des citoyens béninois et les laisser manifester de manière pacifique, librement.
Kine Fatim Diop d'Amnesty International, jointe à Dakar.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Travailler dans un bureau n'est pas pour tout le monde. De nos jours, ici aux États-Unis, de plus en plus de gens se tournent vers des emplois à temps partiel qui leur permettent entre autres de travailler à domicile, d'avoir plusieurs emplois à la fois, ainsi que des horaires flexibles. De plus en plus de travailleurs utilisent actuellement des applications pour smartphones pour trouver des emplois à temps partiel. Mikhailo Komadovski de VOA a rencontré l'un de ces nouveaux types d'employés à Washington, D.C. Son reportage avec Arzuma Compaoré.
Natif de Washington DC, William Neher a quitté son emploi il y a plusieurs années. Maintenant, il utilise des applications sur smartphone pour trouver des petits boulots, ce qui lui donne un travail plus flexible et temporaire.
Actuellement, je ne gagne de l'argent qu'avec des applications sur mon téléphone. Mon téléphone est devenu, pour l'essentiel, le couteau suisse de mon revenu mensuel. Je suis activement abonné à plus d'une douzaine d'applications différentes. En ce moment, je gagne de l'argent en collectionnant des scooters et en promenant des chiens.
Nier fait partie d'un nombre croissant des personnes qui contribuent à ce que les experts considèrent comme une économie de petits boulots en pleine croissance. Les chiffres du gouvernement américain indiquent qu'il y avait près de 2 millions de travailleurs qui ont suivi ce modèle en 2016. Nier dit que les applications fournissent tout ce dont il a besoin pour ses petits boulots. L'application de promenade de chiens permet même aux propriétaires de suivre leurs animaux de compagnie. Aujourd'hui, il a déjà gagné environ $100 pour son boulot de promenade de chiens. Maintenant, il va entamer le prochain petit boulot chargé des scooters.
Ce boulot consiste à trouver et à récupérer les scooters, à les charger, puis à les mettre dans la rue, dans un certain secteur et avant une certaine heure. Vous êtes aussi censé les tester honnêtement et vérifier tout type de dommages, parce que c'est votre job de signaler toute panne.
William peut transporter 30 scooters dans sa Prius. Il en collecte environ 20 la nuit et 13 le jour, et cela lui rapporte environ $200.
Pour moi, c'est ça la recherche du bonheur. J'ai eu plusieurs emplois. Je suis resté dans le secteur de la vente pendant plusieurs années. Aujourd'hui, j'ai 12 emplois dans 3 états différents sur le plan technique, mais je pourrais aller dans n'importe quelle grande ville à tout moment, pointer et être payé.
3 ans après avoir quitté son travail de bureau traditionnel, Néer ne regrette rien et envisage de continuer à gagner sa vie de cette manière.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.